Une semaine après l'acharnement policier qui a eu lieu à la teuf de Redon vendredi dernier, la colère mais surtout l'incompréhension domine encore les pensées. Cet événement festif qui a réuni 1500 personnes a tourné au drame. Un jeune homme a eu la main arrachée, nombre de politiques, associations, mais également citoyens et citoyennes ne comprennent pas cette action policière.
Parmi eux, il y a la Ligue des droits de l'homme, dont le président Patrick Roquegel est avec nous ce soir et qui vient au nom de Hors Libre, l'Observatoire Rennais des Libertés Publiques. Bonjour.
Bonjour.
Pour replacer un peu dans le contexte, en 2019, lors de la fête de la musique à Nantes, Steve Maya Canisso est mort après une charge policière, d'ailleurs injustifiée selon beaucoup de personnes. En hommage à ce jeune homme, des sound systems organisent un peu partout en France des teufs. Dans les environs de Rennes, c'est à Redon où il y a eu la teuf. 1500 personnes se réunissent pour faire la fête, danser, s'amuser. Des aspects de la vie que nous avons perdus durant ces tristes derniers 18 mois de pandémie. Malheureusement, le préfet Emmanuel Berthier l'interdit. Patrick, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, selon vous, il était légitime de tenir l'événement malgré l'interdiction de la préfecture?
Oh, écoutez, j'ai presque envie de me référer à ce qu'a dit le président de la République au cours de ces derniers mois. Je le cite. Hein. C'est elle, en parlant de la jeunesse, qui a le plus souffert de la crise, le 20 juillet 2020. Il n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020, le 15 octobre 2020. Amusez-vous, faites la fête à l'Élysée, le 21 juin 2021. Donc la question qui se pose, mais comment se fait-il que ces jeunes qui se retrouvaient dans une prairie, loin de toute habitation, et qui avaient envie de faire la fête ensemble, comment se fait-il qu'on ait déployé de tels moyens pour essayer de les faire partir? C'est ça la première question que l'on doit se poser. Si vraiment on considère que la jeunesse a beaucoup souffert au cours de presque 2 années de contraintes sanitaires, oui, c'est vrai que c'était la veille de la fin du couvre-feu, ok. Est-ce que pour autant on devait empêcher ces jeunes de se retrouver? Est-ce que ça posait réellement un problème? Et pourquoi avoir déployé de tels moyens pour essayer de les enchasser?
D'ailleurs, certains et certaines citoyens et citoyennes justifient en fait l'attaque policière par le fait que la teuf était interdite. Du coup, une attaque alors de la police alors totalement légitime sous le joug du respect de la loi, en précisant d'ailleurs que c'était qu'une simple circulaire préfectorale. Que leur répondez-vous en fait à ceux qui légitiment cette réaction policière?
J'ai envie de leur dire, mais les forces de l'ordre étaient là pourquoi, au bout du compte? Est-ce que leur mission était d'assurer la sécurité? Et quand je dis la sécurité sanitaire et physique des participants. Vous venez de parler de cette dramatique noyade de Steve. Il y avait à proximité du terrain où ça se passait ce week-end une rivière. Effectivement, s'il s'agissait d'assurer la sécurité, on met un cordon de force de police qui effectivement empêche quelqu'un de tomber à l'eau. Était-ce cela vraiment l'objectif assigné? Ou bien, en réalité, est-ce que c'était pas plutôt contraindre ces jeunes à se tenir sages, hein, je fais du David Dufresne, à se tenir sages dans les circonstances actuelles? C'est une des questions que nous nous posons.
Bah oui, tout à fait. D'ailleurs, on pourrait carrément se questionner sur le commandement en fait, qui a amené à cette terrible attaque policière. On a toujours peu ou pas d'infos sur ce sujet, mais comment ça se fait?
Je suis bien incapable de répondre à votre question. L'interlocuteur que vous devriez avoir en face de vous pour y répondre, c'est le préfet. Le préfet ou le ministre de l'Intérieur. Bon. Mais au moins le préfet.
Je cite ce que l'on peut lire dans un article du 20 minutes. Au cours de la manœuvre, il y a pu avoir du matériel cassé, des dégradations, mais le contentieux pourra être remboursé, assure-t-on du côté de la gendarmerie. En effet, les policiers, ils ont cassé le matériel à coups de hache, carrément, malgré que la musique avait été cessée. Ainsi, les organisateurs et les organisatrices estiment la casse entre 100 000 et 200 000 euros de préjudice. Pensez-vous que l'État va réellement rembourser la casse matérielle?
Je suis incapable de répondre à cette question-là. Je répète, vous n'avez pas le bon interlocuteur. Je ne le sais pas.
Et vous espérez quand même qu'il y ait un remboursement?
Bah, écoutez, certains jeunes, on a nous maintenant des remontées. Hein. Vous savez que Hors Libre, hein, l'Observatoire Rennais des Libertés Publiques, a souhaité ouvrir un dossier sur cette affaire et donc faire remonter de l'information. Parmi les informations qui nous parviennent, il y a évidemment des gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Alors, les estimations sont très larges, puisqu'on entend 100 000, on entend 200 000. Moi, je suis bien incapable de valoriser, évidemment, le matériel qui a été cassé. Mais attendez, il y a des gens qui, pour le coup, vont se retrouver en très, très grande difficulté. Or, quand on pose la question, mais qui a donné l'ordre, finalement, alors, de récupérer le matériel est une chose, de le briser en est une autre. Qui a donné l'ordre ? Le préfet dit « Ah non, moi j'ai pas donné, j'ai donné l'ordre de saisir, mais pas de casser. » Le procureur dit « Ah non, moi j'ai pas donné l'ordre de briser, j'ai donné l'ordre de saisir. » Le ministère de l'Intérieur dit aussi qu'il n'a pas donné ce type d'ordre. Mais alors, la question c'est, mais qui donne les ordres ?
On pourrait imaginer que ce soit les policiers eux-mêmes qui aient pris cette décision de leur propre arbitre.
Écoutez, vous savez, si vous laissez les gens agir à leur guise, alors que peut-être ils préféreraient être à un autre endroit à cette heure-là et qu'ils sont peut-être agacés que des jeunes fassent la fête pendant qu'eux-mêmes ne sont pas avec leur famille, etc. Moi, je peux comprendre les agacements et l'énervement auxquels ça peut donner lieu. Mais là aussi, il y a un commandement. Il y a quand même quelqu'un qui donne des ordres. Bon, qui commandait ?
Et puis même, agacement ou pas agacement, est-ce que ça légitimerait vraiment une casse ?
Non, pas du tout. Je disais, on peut comprendre les raisons pour lesquelles. Ça, en aucun cas, ça ne peut légitimer la casse. Et on parle du matériel, hein, mais je rappelle quand même qu'il y a un jeune homme de 22 ans qui a perdu une main. Et j'ai eu un témoignage avant-hier de quelqu'un qui était là pour justement prodiguer des soins, qui ne pouvait pas accéder, en fait, les forces de police empêchant d'accéder, les forces de l'ordre, je devrais dire, empêchant d'accéder sur le terrain, et ce pauvre jeune qui était là et personne pour s'occuper de lui. Personne pour s'occuper de lui. Et avec un propos rapporté, hein, de quelqu'un du maintien de l'ordre disant ben, s'il n'avait pas été là, ça lui serait pas arrivé. Bon, mais non, attendez, si on a, dans le contexte actuel, on est quand même dans un contexte particulier, hein, je parle sur le plan des élections, le nombre d'abstentions est singulièrement sur les jeunes. Si on avait voulu faire quelque chose pour se mettre à dos la jeunesse, là, pour le coup, on a réussi. On a réussi. Voilà. Attendez, les jeunes en question, je veux dire, ce sont nos enfants, quoi. Hein. Ils n'étaient pas venus là pour casser quoi que ce soit, quoi. On n'était pas dans une manifestation où, effectivement, il peut y avoir, vous savez, des gens très excités qui cassent les vitrines des magasins, etc. On n'était pas dans un contexte tel que celui-là. C'est des jeunes qui viennent faire la fête ensemble. On ne comprend pas. On ne comprend pas.
D'ailleurs, dans le dossier que vous avez monté, est-ce que vous savez s'il y a eu des dépôts de plainte de la part des organisateurs, organisatrices ou même des participants et participantes ?
Alors, je sais que des projets en ce sens sont en train de se construire. J'ai vu notamment une déclaration d'une avocate qui s'occupe beaucoup de ces organisations de comment on appelle ça ?
Son système.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, évidemment qu'il va y avoir... évidemment, je ne veux pas parler à leur place, hein, mais il y a fort à parier qu'effectivement, il y ait un dépôt de plainte. Ça, c'est, là encore, je répète, c'est côté matériel. Après, ce jeune, il est quand même pénalisé. Enfin, moi, je suis vraiment... mes sentiments sont vraiment entre... la tristesse et la colère. Et c'est quand même toujours la tristesse qui commence par m'arriver, quoi. Parce que j'imagine la vie de ce jeune homme, comment elle peut être bousculée. Moi, je ne cesse, je ne le connais pas, hein, je ne cesse de penser à lui. Je me dis, comment on sort d'une situation comme ça, quoi. Voilà, hein.
En fait, dans la nuit du vendredi, pour remettre un peu dans le contexte, la nuit du vendredi 18 et samedi 19, en fait, c'est transformé quand même en affrontement de 7 heures entre la police et les participants de la teuf. C'est assez impressionnant. Et donc, comme vous l'avez dit, un jeune de 20 ans a eu la main arrachée, sûrement d'ailleurs par une grenade lacrymogène. Et en fait, cette répression a eu de nombreuses conséquences morales et physiques. Mais justement, la question, c'est est-ce que c'est normal qu'en France, les jeunes puissent carrément risquer leur vie, leurs conditions physiques pour faire la fête?
J'ai reçu un autre témoignage d'une mère de famille que je ne connais pas là encore, hein. Des gens sont en train de nous écrire sur le site de Orlib. Une mère m'écrit en disant nous n'avons pas dormi de la nuit parce que notre fille était sur place avec ses cousins et on craignait la violence des services d'ordre, du service d'ordre, de la police, à l'égard des jeunes. Non mais attendez, dans quelle société vivons-nous où en fait, une mère de famille craint pour sa fille qui est allée à une fête, non pas qu'elle soit victime de quelqu'un qui est sur la fête, qui aurait des combats, mais qui craint un comportement de la part de la police, qui normalement est là pour assurer la sécurité. On est sur la tête, quoi.
D'ailleurs, la répression, elle a eu lieu aussi à Redon, mais dans les jours qui ont suivi, elle a aussi lieu à Paris, lors de la fête du 21 juin, la fête de la musique. Sur les Champs-Élysées, il y avait des milliers de jeunes qui s'amusaient, qui dansaient, qui chantaient, et ils se sont fait gazer, encerclés par la police. Ce qui me fait poser une triste question, mais je pense qu'il est important qu'on se la pose. Allons-nous, en fait, vers un monde où il sera dangereux de faire la fête, en fait, que les jeunes fassent la fête?
Si nous allons vers un monde tel que celui-là, nous allons vers un monde qui est bigrement triste.
C'est
bigrement
ça.
Triste. Et là, les auditeurs ne le voient pas, mais je leur dis, j'ai une bande de jeunes autour de moi, y compris la mienne qui est ici, ma fille qui est ici de 12 ans, qui est ici à côté de moi. Je leur dis, le monde qui vient, il dépend pas d'un vieux comme moi. Il dépend d'abord et avant tout de vous. Hein. Je les regarde en même temps que je dis cela. Il dépend d'abord et avant tout de vous, dans le domaine qu'on est en train d'évoquer là, mais dans bien d'autres domaines, y compris sur la préservation de la qualité environnementale. Enfin, il y aurait bien d'autres sujets dont la Ligue des droits de l'homme s'empare régulièrement. Ça dépend... Alors, excusez-moi, ce n'est pas une manière de vous renvoyer la responsabilité. J'ai évidemment aussi ma part de responsabilité. Et à mon humble niveau, j'essaye de faire ce que je peux faire, quoi. Mais... on n'y arrivera pas si on se met pas tous ensemble, quoi. Enfin, si on c'est l'occasion, entre parenthèses, de lancer un message. Nous avons créé, donc il y a quelques mois, hein, cet observatoire des libertés. Je signale que au départ, l'objectif, il n'était pas d'aller regarder comment ça se passe dans une rave party. Très honnêtement, quand nous avons commencé à travailler sur ce projet il y a plus d'un an maintenant, en aucun cas nous aurions pu penser que l'une des premières affaires dont nous aurions à traiter, ce serait les violences à l'occasion d'une rave party. Et j'en profite pour lancer un appel, parce que je sais que votre radio, évidemment, est beaucoup écoutée par les étudiants. Nous aurons besoin d'observateurs, d'accord, pour lesquels, évidemment, on met en place un processus de pas de sélection, pas de recrutement, mais il faut bien quand même expliquer en quoi consiste ce rôle d'observateur. Et puis, il faut aussi former les gens. Donc voilà, donc, j'en profite pour lancer un appel. Si certains d'entre vous souhaitent participer à cette mission citoyenne, c'est une mission citoyenne, hein. On est aussi en train de se battre pour faire reconnaître ce rôle d'observateur. D'accord ? Ça vient, hein, ça vient. Mais voilà, donc si certains de vos auditeurs sont intéressés, vous allez sur Orlib, vous avez bien trouvé une adresse, ou vous écrivez à la Ligue des droits de l'homme ou à TAC. On est 6 organisations, hein. Je les cite au passage, parce que je rappelle que moi je parle au nom de Orlib, et je ne veux surtout pas oublier de citer les autres partenaires. Hein. Il y a ATAC, je l'ai dit, il y a la FSU, il y a le Syndicat des avocats de France, il y a Solidaire 35, et la libre pensée. Voilà, voilà les 6 organisations qui en fait composent. Et on va se retrouver, là aussi je passe une petite annonce, demain il y a une manifestation à 11h devant la sous-préfecture de Redon. Et évidemment, nous y serons. Donc là encore, si certains d'entre vous peuvent y participer, 11h, sous-préfecture de Redon, ce samedi 25.
Bah, merci pour cette information. Et comme vous l'avez dit, normalement, vous étiez à 10 lieues de penser que vous devriez constituer un dossier par rapport à une teuf. Et en fait, on voit que cette violence de l'État envers la jeunesse, les modes de fête alternatifs, en fait, est-ce qu'on peut se poser que c'est le symbole d'un gouvernement qui devient de plus en plus autoritaire et qui souhaite un peu museler la jeunesse et en fait la priver d'une forme de liberté ?
Si vous avez suivi un peu l'actualité qui est la nôtre, et je parle là encore des organisations, mais plus particulièrement la Ligue des droits de l'homme, il vous aura pas échappé qu'on a beaucoup manifesté contre la loi sécurité globale, d'accord, et puis contre la seconde loi que je continue à appeler de son premier nom, c'est-à-dire la loi contre les séparatismes. Dans les deux lois en question, on peut repérer ce que vous venez vous-même de dénoncer, à savoir une restriction des libertés. Dans la seconde loi dont je viens de parler, contre les séparatistes, en particulier à travers tout le contrôle, tous les contrôles qui seront ou qui seraient, je le mets en conditionnel, qui seraient réalisés à l'égard des associations. Si vous avez l'occasion d'aller, si vous avez un peu de temps, allez regarder ce qu'il y a dans cette seconde loi. Là, sur la première, on s'est beaucoup bagarré sur le fameux article 24 empêchant justement les observateurs, les journalistes. Sur la seconde, là, le secteur associatif a intérêt à vraiment, il s'est déjà mobilisé, mais il faut qu'il continue à se mobiliser. Parce qu'il y aura des moyens de contrôle et de rétorsion à l'égard des associations qui ne penseront pas comme les décideurs financiers le souhaitent. Là, il y a vraiment des inquiétudes à avoir.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les moyens de contrôle qui risquent d'être imposés ?
Alors d'abord, si vous ne signez pas la charte de partenariat, la nouvelle charte de partenariat décidée uniquement par le gouvernement, vous risquez de voir vos budgets coupés, alors qu'il existe une charte déjà qui a été signé après vraiment des discussions associant l'ensemble des partenaires, à la fois les représentants de l'État, à la fois les représentants des collectivités territoriales et à la fois les représentants des associations. Et là, d'un seul coup, on met en œuvre une nouvelle charte, d'accord, allant regarder très précisément mais quelles sont les pratiques au fait de cette association. Alors, on voit bien l'objectif... est-ce qu'il faut dire l'objectif déclaré, suggéré de la part du ministre de l'Intérieur, qui est effectivement de combattre l'islamisme, d'accord ? Mais sauf que si, au nom de cela, on supprime des libertés du côté des associations, là encore, je suis inquiet pour la société que nous nous préparons.
Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit précédemment, on a vu qu'il y avait une forte abstention électorale de la jeunesse au niveau des régionales. Et là, on voit que les jeunes se font de plus en plus réprimer. Est-ce qu'on ne risque pas une fissure extrême en fait, entre les forces de l'ordre, symbole étatique fort, et la jeunesse française, et plus largement en fait, les citoyens et les citoyennes ?
C'est un véritable enjeu. C'est un véritable enjeu et ce serait dramatique qu'on arrive dans une situation comme ça. Nous ne cessons de prôner la désescalade, notamment au moment lors des manifestations. Et là, il faut s'inspirer de ce qui se pratique en Allemagne, dans bon nombre de Länder, où au lieu d'aller en permanence à la percussion, au contraire, on essaye de contenir et justement, on essaye d'apaiser. Okay, c'est une toute autre approche que celle qui consiste à dire « Ah, ils sont agités, on va les casser. » C'est pas la même approche. Alors, je suis pas un spécialiste, moi, du maintien de l'ordre, hein, du tout. Hein, d'accord. Mais comme toujours, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit, ça n'est pas d'abord le policier, la personne en charge du maintien de l'ordre qui doit l'avoir. C'est quand même d'abord au niveau de la chaîne de commandement et en particulier au niveau ministériel que ça doit être clairement indiqué.
Eh ben, merci Patrick d'avoir échangé sur ce sujet avec nous ce soir.
Je rappelle merci à nos auditeurs et auditrices, merci beaucoup que vous êtes membre de Hors Libre, l'Observatoire Rennais des Libertés Publiques, quelque chose d'assez nouveau, et président de la Ligue des Droits de l'Homme également. Pour notre part, nous apportons tout notre soutien aux personnes qui portent de lourdes conséquences physiques, morales suite à cette nuit dramatique, en espérant que justice soit faite, que les organisateurs et organisatrices se feront rembourser leurs biens, surtout que le jeune homme dont vous avez parlé qui a perdu sa main puisse se reconstruire de la meilleure manière possible, et que les personnes qui défendent le droit à faire la fête et les droits sociaux en général ne subissent plus des violences policières aussi démesurées.
Les mecs, prêts à lâcher les chiens ?
La radio sauvage.
Oh, ah ben, ça je peux vous dire que ça fait plaisir.
Ah, super.